Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent,
ça y est, puis 21h.
Marie Richa.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Comment les choses se fissurent-elles ? C'est plus lent, moins spectaculaire, moins soudain que ne le voudraient les curieux, plus silencieux aussi, mais c'est sans retour. Après que l'édifice bâti sur une foi indéfectible et la pratique ultra-orthodoxe de la religion a commencé de se désagréger, il semble qu'il n'y ait aucun retour possible. Car celui qui va vers elle ne revient pas, dit le Talmud de l'hérétique. Elle, donc, l'hérésie. Après une enfance, une adolescence, une vie de jeune mari et de jeune père passée à New Square selon les principes stricts du mouvement juif hassidique, vous êtes un jour banni par votre communauté. Cette scène de nuit, où l'on ne vous laisse pas d'autre choix que de partir au plus vite, ouvre votre livre, Shulem Din, un livre où vous avez cherché à raconter au plus juste, au plus près, votre chemin pour, écrivez-vous dans la postface, éclairer nouvellement le nôtre de chemin. Celui qui va vers elle, c'est la traduction française de votre livre paru à l'édition du Globe. Il a reçu le prix Médici Essai 2017 et on va citer tout de suite sa traductrice en français, Karine Régnier-Guerre. Bonsoir, Shulem Din, merci infiniment d'être là.
Merci.
Votre voix française s'appelle Marguerite Capelle et on la remercie aussi.
Merci.
Finalement, je n'y tins plus. Une nuit, tard le soir, alors que Gitti et les enfants dormaient à l'autre extrémité du couloir, mes yeux se posèrent sur l'appareil à double cassette. Je commençais par repousser la tentation, comme tant de fois auparavant, mais plus j'essayais de la refouler, plus mon désir allait croissant. Dans l'un des tiroirs de la cuisine, au milieu de factures d'eau et d'électricité et d'un assortiment d'élastiques multicolores, je trouvais une vieille paire d'écouteurs. Veillant à ne pas faire de bruit, je plaçais une chaise près du réfrigérateur, montais dessus et branchais les écouteurs dans la minuscule prise jack. Posant les coudes dans la poussière amassée sur le frigo, je tournais lentement le bouton, écoutant d'une oreille le grésillement des parasites, tandis que l'indicateur blanc oscillait le long de la bande rouge, tout en tendant l'autre oreille pour déceler d'éventuels bruits en provenance des chambres à coucher. Je passais d'une fréquence à une autre. Les publicités pour avocats spécialisés dans les erreurs médicales, concessionnaires de voitures et soldes de grands magasins m'inondant d'un plaisir défendu. Les étranges thèmes musicaux, la succession fluide du point sur la circulation routière aux informations et à la publicité me fascinaient. Le fait que les soldes aient lieu 7 semaines seulement, ou que je ne sois pas au même instant sur la voie express Brooklyn-Queens, qui, je le savais maintenant, était embouteillée jusqu'au pont de Brooklyn à la suite d'un accident sur la voie de droite, importait peu. J'avais l'impression d'être un visiteur venu d'une autre époque, soudain confronté au monde moderne, fasciné par son prosaïsme même.
Shulem Din, Romain de Becdelièvre lit un extrait de votre livre « Celui qui va vers elle ne revient pas » et l'on entend votre fascination lors d'une scène de nuit où vous vous décidez, après avoir longuement hésité, à brancher les écouteurs sur la FM. Cette radio, à ce moment-là, dans cette nuit-là, dans cette cuisine, elle ouvre quelle porte pour vous ?
The radio opened the door to...
La radio m'a ouvert la porte.
Exercising choice. It was a very, very small
moment.
Vers
le fait de faire des choix, ça a été un tout petit instant.
But it was a step in recognizing that
I can make. Mais ça a été une étape pour reconnaître que j'étais capable de faire des choix, même dans un monde où j'avais été élevé en croyant que aucun choix n'était possible.
This would then lead to other very small choices.
Ça, ce choix-là allait me conduire vers d'autres tout petits choix, celui d'aller à la bibliothèque, de commencer à lire des livres,
to read newspapers, to listen to
de lire
music.
Des journaux, d'écouter de la musique.
These were all
Tout ça, c'était des étapes dans le fait d'exercer ma capacité de choix. Et le moment où j'ai réalisé que je pouvais penser pour moi-même, ça a été vraiment le début.
Je parlais en introduction d'un édifice qui, petit à petit, se fissure, et se fissure lentement et silencieusement. Cela va à l'encontre d'une vision selon laquelle, d'un seul coup, on ne croit plus en Dieu, et ça arrive comme ça. Est-ce que vous sauriez dire pendant combien de temps cet édifice sur lequel vous aviez grandi, Shulem Din, s'est fissuré progressivement?
C'est en tout cas un processus qui a pris des années.
It started with small questions.
Ça a commencé avec des petites questions. Quand j'ai commencé à me demander si l'autorité des rabbins au sein de notre communauté et des rabbins qui avaient déterminé notre façon de penser, est-ce que il y avait vraiment de la sagesse, est-ce que c'était vraiment la vérité dans ce qui, la façon dont ils avaient déterminé nos vies. Ça a commencé avec des questions sur notre mode de vie, notre vision du monde, notre idéologie en particulier. Il y avait des défauts, des lacunes dans cette idéologie, et je pense que je n'étais pas le seul à les remarquer. Je pense que beaucoup de personnes, même au sein de ce monde, les voient, ces lacunes, ces défauts, mais sont, de façon générale, sont formées à ne pas les remettre en question, à ne pas se concentrer dessus. Je pense que pour moi, il y a eu un moment où j'ai commencé à avoir le sentiment que j'avais besoin de remettre en cause ces choses-là. C'était des questions que je n'arrivais pas à réprimer. J'ai essayé pendant longtemps. C'était des questions sur notre mode de vie, sur notre idéologie, qui ont ensuite entraîné des questions plus larges sur le judaïsme en général. Sur la religion en général, surtout le concept de révélation dans ces religions, c'est quelque chose qui est devenu de moins en moins plausible à mes yeux. Et j'ai essayé de réconcilier cette vision avec mon désir profond de rester une personne qui, dotée d'une foi, parce que ma foi était extrêmement importante pour moi. C'était vraiment la fondation, les fondements de toutes mes valeurs, et si je perdais ça, tout le reste allait s'effondrer. Mais au final, c'est quand même ce qui s'est passé.
Quand vous écoutez cette radio où se succèdent des flashs sur les soldes qui ont lieu en ce moment, sur la météo, sur le trafic des voitures, sur les avenues non loin, vous avez un plaisir incroyable à prendre contact avec ce que vous appelez le monde moderne. Est-ce à dire, Shulem Din, que vous viviez à ce moment-là dans un monde qui était quoi? Un monde ancien, un monde qui appartient au passé, un monde à part? Comment est-ce que vous décriviez ce new square?
Well, I wouldn't quite say ancient.
Je ne dirais pas un monde ancien,
just very removed, very detached,
mais vraiment un monde très à part, très éloigné,
obviously very provincial, but more
clairement
than provincial,
très provincial.
In some ways, it was like a third world country.
D'une certaine façon, c'est presque comme un pays du tiers-monde transposé dans un pays très développé.
I mean that, to be clear, there is a lot of modernity even.
Pour être très clair, il y a énormément de modernité, même dans une communauté comme celle-là. Les gens conduisent des voitures, ils ont des radios, il y a des ordinateurs. Donc, énormément d'éléments du monde extérieur. Ça fait partie des aspects ironiques du monde ultra-orthodoxe. C'est un monde qui a tendance à rejeter la culture extérieure, à vouloir en être séparé. C'est un monde qui essaie de maintenir cette barrière avec le monde qui l'entoure, mais ce n'est possible qu'en étant lié à une zone urbaine très importante comme New York City, où il y a des progrès technologiques, des infrastructures médicales, économiques, etc., dont ils peuvent se servir. avant de ensuite se retirer dans leur enclave. C'est un point sur lequel moi je critique cette idéologie, c'est qu'ils ne participent pas au processus qui permet de continuer à développer ces aspects-là, mais par contre ils en tirent avantage.
Cette barrière, vos parents la franchissent dans l'autre sens, bien des années avant que vous ne la franchissiez dans le sens qui vous mène à sortir de la communauté de New Square, ce qui faisait déjà de votre place, Shulem Din, une place un peu particulière dans cet ensemble répondant aux principes stricts du mouvement hassidique. Comment est-ce que vous décririez cette place particulière venue du fait que vos parents venaient de l'extérieur? Given the fact that your parents were coming from the
outside world. So I should say I was not fully aware of where my parents came from.
Je me rendais pas en fait complètement compte, je ne savais pas tout à fait d'où venaient mes parents. Je savais qu'ils étaient différents.
And one of the main differences was
une des principales
that we spoke English
différences, c'est qu'on parlait anglais dans un
speaking
monde qui parlait 100% yiddish.
I don't remember a time that I spoke
je
only English.
Ne me souviens pas de moment où j'ai parlé seulement
English
anglais. J'ai sans doute appris l'anglais avant l'yiddish, mais j'ai quand même appris le yiddish très jeune, parce que le monde dans lequel
English
nous vivions parler à 100% le yiddish.
And there were little things like that, that
il y avait des petites choses
parents,
comme ça que je savais sur mes parents, mais ils ne m'ont pas raconté qu'ils venaient d'un monde différent. Ils m'ont dit qu'ils venaient d'un monde légèrement différent. Peut-être pas tout à fait aussi fermé, aussi insulaire que celui-là, mais ils ne m'ont pas dit qu'ils venaient de milieux qui n'étaient pas religieux. Je n'ai découvert ça que beaucoup plus tard, j'ai trouvé des indices quand j'étais adolescent, et c'est seulement adulte que j'ai vraiment compris à quel point mon père et ma mère avaient été éloignés de ce monde-là. Cette absence de connaissances m'a protégée d'une certaine façon. Ça m'a empêché de me sentir trop éloignée de la société dans laquelle je me trouvais. J'ai senti que j'étais différent, mais ce n'était pas quelque chose qui m'envahissait.
And I do believe that the community did see me as different, even though
je pense que la communauté, par contre, m'a vu comme quelqu'un de différent sans que je m'en rende tout à fait compte. Probablement, ça a imprégné ma place dans la communauté. Pas parce que je savais d'où venaient mes parents, mais parce que j'ai fait cette expérience, j'ai senti que moi, dans cette communauté, je me suis sentie d'une certaine manière parce qu'ils se liaient à moi et ils me renvoyaient une place particulière. Et je pense que ça a eu un impact tout à fait significatif sur ma décision finale d'épouser la personne que j'ai épousée. Je veux être précis ici, je ne dis pas que j'ai épousé quelqu'un qui n'était pas quelqu'un de bien. C'était pas du tout le cas.
But it was a very unsuitable marriage.
Mais c'était un mariage qui ne me convenait pas du tout, ça m'a rendu très malheureux. Et je pense que ça vient notamment de ma place dans la communauté, et cette place probablement était tout à fait liée en fait aux origines de mes parents.
Origine, activité et provenance que vous découvrez avec le temps, Shulem Din, notamment le fait qu'ils se sont rapprochés à un moment donné de la communauté hippie, qu'ils ont été actifs justement dans la bataille pour les droits civiques des Noirs américains. Comment est-ce que vous diriez que cette connaissance qui n'en était pas vraiment une a contribué à forger une conscience en parallèle de l'enseignement religieux que vous receviez, qui vous a permis à un moment donné de faire un acte qui fut l'acte peut-être le plus décisif et le plus libre de votre vie?
Well, I certainly did not share what I can safely say is widespread xenophobia.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne ressentais pas du tout la xénophobie rampante qui est très présente dans le monde ultra-orthodoxe. J'ai été élevé dans un monde dans lequel ce type de point de vue était très présent, mais pas chez nous. Je regardais mon père marcher dans la rue et distribuer de l'argent à des SDF, quelque chose que personne ne fait à New York. Et je voyais la façon dont il échangeait avec les chauffeurs de taxi qui étaient souvent afro-américains. Je me souviens avoir pris un taxi avec mon père assez souvent et souvent il demandait au chauffeur de s'arrêter parce qu'il fallait qu'il fasse une course dans une épicerie et juste avant de sortir de la voiture, il se tournait vers le chauffeur et il disait « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Et il y avait une forme de respect qu'il avait pour les êtres humains qui était vraiment manifeste à mes yeux. Et donc clairement, ça a joué sur ma façon de penser et ça a équilibré les choses par rapport aux messages délivrés par la communauté selon lesquels les étrangers sont forcément mauvais, décadents et qu'il n'y a aucune valeur en fait au monde extérieur, que les êtres humains qui appartiennent au monde extérieur sont forcément inférieurs, qui appartiennent quasiment à une autre espèce. C'était vraiment contrebalancé de façon très claire par l'exemple de mon père et sa façon d'interagir avec le monde extérieur. Je devrais ajouter aussi que mon père m'a montré de façon très explicite qu'il avait des liens, des connexions avec le monde extérieur. Il faisait beaucoup de conférences et il faisait des conférences à des publics qui appartenaient à ce monde extérieur et il ne le cachait pas, pas à moi. Il allait vers les autres, il allait sensibiliser les autres. C'était quelque chose de pas du tout commun dans notre partie du monde ultra-orthodoxe, aller dans d'autres parties, dans d'autres groupes, mais lui, il était très clair sur le fait qu'il voulait s'adresser à des gens qui n'appartenaient pas à notre monde. Une des choses les plus frappantes dont je me souviens, c'est que tous les mardis, mon père allait à l'épicerie du coin avec moi et il achetait le New York Times. Il y avait une petite bodega. Je ne sais pas si vous avez ça en France. À New York, on les appelle comme ça, c'est les petites épiceries du coin. Et qui vendent aussi les journaux. Et il achetait donc tous les mardis le New York Times parce qu'il y a des pages science tous les mardis. Et il ramenait ça à la maison. Il ne ramenait pas à l'intérieur de la maison, il s'asseyait devant. Il jetait tout le journal à la poubelle et il gardait uniquement les pages scientifiques. Et il lisait ça, mais dehors, devant notre maison. Et quand il avait terminé, il le balançait aussi et puis il rentrait à la maison. Ce que j'en ai retenu, c'est que le monde extérieur avait des choses intéressantes à apporter, des choses qui avaient de la valeur, mais qu'il fallait être très prudent dans la façon d'interagir avec ça. Et qu'on pouvait atteindre un certain état de sagesse, d'expérience, de maturité qui permettait de faire ça bien, mais qu'il fallait du temps et qu'il fallait s'immerger suffisamment dans les rigueurs spirituelles aussi du monde dans lequel on vivait.
On ne peut pas y échapper, c'est impossible. Alors, en fait, l'étude elle-même à la yeshiva, c'est effectivement quelque chose de tellement particulier. C'est-à-dire, vous êtes dans un monde, il faut dire les choses comme elles sont, totalement clos. Un monde voué à l'étude non-stop. Les nuits sont très courtes, on a éventuellement du temps libre entre le jour et la nuit, c'est tout. Le fait est qu'on en prend là-bas à apprendre la première lettre d'ailleurs de l'alphabet hébraïque, Aleph, est un rébus. Aleph s'écrit avec trois lettres, comme toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Aleph, Lamed, Fe, P, Aleph. Aleph veut dire apprendre, Lamed, enseigner, P veut dire la bouche. Donc en fait, apprendre à sa bouche, à apprendre, à apprendre, à apprendre. Tout est dit avec une lettre, comme aurait dit Borges, par exemple. Donc c'est ça la yeshiva, on apprend à apprendre, c'est une méthodologie, mais on ne peut plus y échapper, puisque on ne fait que ça, vivre, c'est apprendre à vivre. Mais à partir du moment où on en est conscient, les choses ne sont plus les mêmes. La conscience est déjà, d'une certaine façon, truquée, je vais dire, c'est-à-dire codée, arrangée. En tout cas, le rythme de vie à la yeshiva est totalement anachronique avec le rythme de la vie à l'extérieur. Il se trouve que moi j'ai passé des années et qu'au bout de quelques années, effectivement, le désir d'aller dehors, pour des raisons ne serait-ce que vitales, c'est-à-dire partagées. À mon avis, la problématique de ces lieux, effectivement, qu'ils tournent très très vite, mais en vase clos d'une certaine façon. On a entre les mains une machine intellectuelle extraordinaire qui, si elle n'est pas partagée, tourne effectivement sur elle-même. Donc c'est une révolution au sens premier du terme. Ça tourne sur soi. Donc le fait de tourner sur soi n'est pas en soi réellement révolutionnaire.
C'est une archive de 2015 dans l'émission Hors Champ. C'est la voix de Pierre-Henri Salfati qui parle de son expérience de l'étude à la yeshiva, Shulem Din. Ce passage, bien sûr, relatif à l'étude à la yeshiva est assez présent dans votre livre. Vous en témoignez. Pierre-Henri Salfati dit qu'à un moment donné, de ce monde qui tourne, il a besoin de sortir, mais pour une raison très précise, qui est le partage. Est-ce que vous diriez que dans votre élan à sortir de New Square et de cette communauté, il y avait outre l'abandon d'une foi, l'idée qu'il fallait partager un outil intellectuel que vous aviez acquis là-bas?
I don't think I wanted to share what I had learned.
Je ne crois pas que je voulais partager ce que j'y avais appris.
Primarily, I wanted to learn.
En fait, je voulais surtout apprendre.
I wanted to learn what was outside of that.
Je voulais apprendre
world.
Ce qu'il y avait en dehors de ce monde-là.
But I also had an ambition to be a writer from a very
J'avais
young age.
Aussi l'ambition depuis tout jeune de devenir écrivain. Et je pensais d'abord que j'allais devenir écrivain au sein de la communauté ultra-orthodoxe. Pendant un certain temps, j'ai écrit des essais, j'ai publié dans des médias en langue yiddish, dans des publications ultra-orthodoxes.
But once I started questioning
Mais quand j'ai commencé à remettre en question les choses et puis à ouvrir ma façon de voir le monde, pour voir les choses différemment, j'ai commencé à me demander ce que ce serait d'être écrivain dans le monde extérieur. Et je pense que ça fait partie de l'impulsion qui m'a poussée à aller rejoindre le monde plus largement et à aussi non seulement en apprendre, mais aussi essayer d'avoir un impact sur ce monde. Mais je pense que ça n'a pas été en tout cas le désir vraiment aussi direct d'enseigner ce que j'avais pu apprendre dans la yeshiva. Je ne donne pas énormément de valeur à mon éducation à la yeshiva. Elle en a à mes yeux, mais pour l'essentiel, s'il y a une certaine rigueur intellectuelle, il y a aussi quelque chose d'extrêmement répressif. C'est le type d'étude qui ne convient pas à tout le monde et qui n'est pas agréable pour tout le monde. C'est un petit peu comme imaginer un monde dans lequel tous les ados, tous les enfants devaient être experts des concepts les plus complexes de mathématiques. Et donc vous étudieriez ça du matin au soir. Ce serait quand même une éducation assez répressive, même si les mathématiques sont très importantes. C'est assez proche de ça. Il y a une rigueur intellectuelle, mais c'est tellement concentré sur une seule et unique chose, moi j'ai découvert que ça me faisait du mal en fait. Et j'ai vu aussi que ça faisait du mal à d'autres enfants au sein de cette communauté. Je ne pense pas que ce soit la bonne manière d'éduquer les enfants. En dehors du fait que les gens qui ont reçu une éducation au sein de ce monde, y compris la mienne d'ailleurs, celle que j'ai reçue, ces gens ne savent rien de l'histoire, ne savent rien des sciences, ne savent rien des arts, de la littérature. Et je pense qu'avoir de telles lacunes de connaissances, ça équivaut à un abus. C'est une forme d'abus éducatif. C'est pas forcément la négligence, mais c'est carrément abusif. Parce qu'il s'agit de prendre des gens très jeunes, des esprits tout à fait capables et de pousser ces gens à utiliser ces esprits de façon très rigoureuse mais sans l'utiliser pour des choses qui ont en réalité une grande valeur, qui comptent énormément aux yeux de l'humanité tout entière.
Shulem Dimas, à ce propos, vous parlez de votre passage par Montréal comme un tournant. On évoquait tout à l'heure le moment où vous commencez à écouter la radio, à ouvrir des livres, à ouvrir des journaux. Mais avant cela, il y a ce qui se passe à Montréal. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se dépose en vous à ce moment-là?
Montreal is a little French outpost, right?
Montréal, c'est un petit comptoir français, n'est-ce pas, en Amérique du Nord?
Same for Quebec City and other parts of Quebec.
Comme Québec, la ville de Québec, et puis d'autres parties de la région.
There is something sensual about
Montreal. Il y a quelque chose de très sensuel à Montréal.
There was something sensual in the sense that I would see couples walking, holding hands, which I've never seen in my neighborhood.
Je voyais des couples qui se tenaient la main pour se promener, ce que je ne voyais jamais dans mon quartier.
A kind of Europeanness.
Il y avait aussi quelque chose, une forme d'européanité.
In the way, just in the way the city looks,
dans l'allure déjà physique, l'apparence de cette ville, la façon dont les maisons ont été construites. Il y a quelque chose de l'ordre du charme, quelque chose qui est de l'ordre d'une esthétique de l'ancien monde. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. C'était fascinant.
It was lovely.
C'était très agréable, ça m'a plu.
And I was sensitive to that kind of.
J'étais très sensible à.
To these nuances in my environment.
À ces nuances dans mon environnement et surtout aux différences par rapport à l'environnement d'où je venais.
And the way it was interpreted was that the way I was taught was that.
La façon dont c'était interprété, en tout cas ce qu'on m'a appris, c'est que c'était un monde décadent, que tout le monde était matérialiste, hédoniste.
But I couldn't help seeing something.
Mais je pouvais
very,
pas m'empêcher de voir des choses
very tempting, very
qui étaient très tentantes, très
in
attirantes.
What I was seeing.
Par les temps qui courent, Marie Richard.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so.
Shulem Dean, on a parlé de cette vision sensuelle et dans votre esprit et celui des jeunes hommes autour de vous à cette époque, vision très décadente de la ville de Montréal. Ici, dans la voix de Sarah Vaughan, s'invitent les choses favoris, les choses du plaisir, du désir, des petites choses du rapport à la vie, qui était assez inexistante, en fait, dans votre vie de jeune homme. Et ce qui est encore plus inexistant que cela, c'était le rapport aux femmes, à la sexualité, à votre propre corps sexualisé, au point que les mots pour le dire n'existaient pas et étaient interdits. Tout au long de votre livre, Celui qui va vers elle ne revient pas, cette absence est criante. Pourquoi est-ce que c'était si important pour vous de dire à quel point c'est absent du monde dans lequel vous avez grandi?
Because I think those are essential to human nature.
Parce que je pense que ce sont des choses tout à fait essentielles à la nature humaine.
And I would later discover those things.
Plus tard, j'ai découvert ces choses.
And I would realize just how,
et j'ai réalisé
just how non-existent they were
à quel point elles n'existaient pas.
Not how non-existent, just how,
c'est pas qu'elles n'existaient pas, mais elles étaient réprimées, en fait.
It might be inaccurate to say that they didn't exist.
Ce n'est pas tout à fait vrai de dire que ça n'existe pas. Ça existe dans tous nos esprits et dans mon esprit aussi, de façon abstraite, d'une façon qui n'avait pas de mots.
And it was, we knew.
Nous savions que ces idées, ces pensées étaient trop dangereuses. Et je pense à présent pas jusqu'à dire que c'est de l'ordre de l'abus, mais en tout cas, il s'agit de priver les gens de quelque chose qui est vraiment essentiel dans la nature humaine.
I would discover it later, and I would discover what pleasures there are in the world. And
j'ai découvert les plaisirs du monde.
Are not a bad thing.
Et je pense que les plaisirs ne sont pas une mauvaise chose et que la décadence n'est pas une mauvaise chose. Tout avec modération, bien sûr.
I'd say that in jest. But.
Et je dis ça évidemment avec un sourire.
But yes, I felt the lack of it.
Mais oui, bien sûr, j'ai perçu ce manque. Je l'ai perçu seulement une fois que j'étais partie.
And I think that's very problematic.
Et je pense que c'est évidemment très problématique.
Est-ce que pour vous, c'était important de décrire si précisément ce que l'on fait subir au corps des femmes parce que ça n'est pas su à l'extérieur? Est-ce que c'était l'un des moteurs de votre écriture?
Well, I mean, I was writing about that. Yes, it's a little bit pedagogical.
Oui, il y a some of those sections. Un peu pédagogique quelque part certains de ces passages. J'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je décrive quelque chose qui était probablement très éloigné, très étranger pour un lecteur qui ne connaissait pas ce monde.
And I will also say what you mentioned about
je voudrais ajouter aussi que ce que vous avez mentionné au sujet du corps des femmes, cette idée de la mutilation, je suppose que vous employez ce mot aussi d'un point de vue métaphorique. Je pense que c'est vrai, mais que d'un point de vue symbolique et métaphorique, dans ce monde, tous les corps sont mutilés. Ceux des hommes, ceux des femmes, ceux des jeunes et des plus âgés. Il y a une crainte énorme, une peur du corps, une peur aussi du pouvoir de la sensualité, de la puissance.
Sensuousness, sensuality is powerful.
La sensualité est extrêmement puissante, incroyablement. Et je pense que la religion a tendance à avoir peur d'une telle puissance, de pulsion aussi puissante.
Et donc d'avoir peur de la liberté des individus, de la puissance des individus. Vous avez l'impression que en muselant la sensualité et le désir et le rapport au corps, on muselle quelque chose de l'ordre de la liberté, Sholemdine, d'action.
It's certainly silencing freedom.
Oui, c'est une façon de faire taire la liberté aussi, de réduire au silence la liberté.
I think the silencing of freedom is a separate part.
Je pense que la façon dont on réduit la liberté au silence, c'est bien distinct.
I think there's a very strong denial of choice.
En tout cas, il y a un refus très fort de toute possibilité de choix au sein de ce monde. Et je pense que ce déni de capacité à choisir au sein de ce monde, pour différentes raisons, je pense que ça a davantage à voir avec le désir de préserver une communauté forte, de préserver une continuité culturelle.
And it's not as religious as
ce n'est pas tant aussi religieux que ce que les gens croient. La motivation n'est finalement pas tant religieuse que ça.
Je pense qu'ils tiennent
énormément à leur culture et ils traduisent ça en termes religieux, mais ce dont ils ont peur en réalité, c'est de perdre une façon bien précise de vivre. Et pour préserver cette façon de vivre à part, il faut qu'ils s'assurent que les individus ne décident pas d'agir par eux-mêmes et de faire les choses à leur façon. Pour cette raison, ils contrôlent la façon dont les gens vivent leur vie, jusqu'aux personnes que les gens doivent épouser. Ce sont des mariages arrangés, pas uniquement au sens où ce sont les parents qui choisissent le partenaire de leurs enfants, mais d'une façon extrêmement réelle, c'est la communauté tout entière, en fait, qui choisit qui va épouser qui. En fait, les unions sont quasiment faites par consensus de la communauté, parce que c'est la communauté qui va juger de ces unions entre un jeune homme, une jeune femme, et ils vont exprimer leur jugement, dire cette union est bonne, cette union est mauvaise. Ce qu'ils veulent dire, en fait, c'est qu'une bonne union, c'est une union qui fonctionne parce que les familles semblent compatibles. Et ce n'est pas parce que le jeune homme et la jeune femme sont compatibles, mais parce que leurs familles le sont.
And that is how they see, that is one way that
voilà
they
comment
see
ils voient, c'est une manière pour eux de préserver leur mode de vie. Et de contrôler la continuité de ce mode de vie, c'est une manière, c'est de contrôler la façon bien précise dont sont formées les familles, parce qu'ils savent que ça fonctionne. On marie les enfants très jeunes. Avec une approche qui a prouvé son efficacité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en fait, là n'est pas la question. C'est une autre question. Il y a bien évidemment des aspects extrêmement négatifs à ça, mais pour ce qu'ils essayent de faire, en tout cas, ça marche. Même si je pense qu'il y a des aspects négatifs, je pense qu'il y a aussi des aspects positifs, je tiens à le préciser, sur ce point en particulier. La privation de choix, c'est quelque chose que moi j'ai très mal vécu, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont rassurés dans un monde où les choix ne sont pas une raison d'être paralysé. Parfois, choisir, c'est difficile. Et quand on vit dans un monde où on vous dit comment vous comporter, comment prendre des décisions dans les moments importants de la vie, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de positif, en fait, pas négatif.
On est très loin de la spiritualité, Shulem Din, lorsque vous décrivez tout ça.
You're saying I am far away from
non,
spirituality.
Ce que vous décrivez
what
comme
has nothing to do with spirituality.
No, certainly not in the strictest sense of spirituality.
Non, en tout cas pas au sens strict de la spiritualité. Ça a beaucoup à voir avec.
It has a lot to do with culture.
Avec la culture, en fait.
It has a lot to do with the centrality of community and
the avec le rôle central de la communauté, le rôle central de la famille au sein de la communauté.
Yeah, that's not spiritual at all.
Ce n'est pas du tout spirituel.
Ainsi que je l'apprendrai par la suite, beaucoup de croyants ayant perdu la foi perçoivent dans les apports de la recherche scientifique le catalyseur de leur changement de vision du monde. C'était mon cas. La plupart de mes lectures dans ce domaine me déconcertaient. Les idées que j'avais toujours tenues pour acquises, confiant dans la parole des rabbins, certain que les textes sacrés recelaient des vérités absolues, m'apparaissait désormais comme douteuse, voire fallacieuse. L'univers n'avait pas 6 000 ans, comme je l'avais toujours cru, mais plutôt 14 milliards d'années. Loin d'être l'espèce noble et privilégiée façonnée par la main de Dieu à partir d'une poignée de terre au sixième jour de la Genèse, l'homme partageait un ancêtre commun avec le chimpanzé, et même avec tout le règne animal. Sur ce point au moins, les sages du Talmud, qu'on nous disait infaillibles, c'était manifestement fourvoyé. D'après l'illustre Rabbi Israël de Rougine, deux énormes boules de feu sont descendues du ciel, Elles s'appelaient Rav et Abai. À l'en croire, ces grands sages, dont les noms apparaissent quasiment à chaque page du Talmud, n'étaient pas des êtres humains, mais des parcelles de divinité, des boules de feu. En posant sur le Talmud un regard plus critique, je m'apercevais cependant que l'enseignement des sages était entaché, comme tous les écrits de leur époque, par la superstition, la misogynie et la xénophobie, autant de failles qui ne faisaient pas nécessairement de ces auteurs des vauriens, mais les rendaient soudain plus humains et plus ordinaires à mes yeux.
On est un peu plus loin dans votre livre, Shulem Din, avec cette lecture de Romain de Bec-de-Lièvre, et c'est une ouverture de chapitre où il est question de l'impact très fort qu'a votre découverte de la science en dehors du monde dans lequel vous grandissez à New Square, dans cette communauté qui vit selon les principes hassidiques, cette science qui vous fait regarder d'un seul coup tout l'enseignement que vous avez reçu. À quel point est-ce qu'elle a été importante dans la poursuite de votre chemin, Shulem Din ?
Well, we have to clarify what we mean by science.
On doit préciser ce dont on parle quand on parle de science.
A scientist or any or in any way an expert.
Scientifique, je ne suis pas du tout expert.
What science means.
Sur ce que signifie la science.
What science means to me is.
Ce que ça signifie pour moi.
It is a method.
C'est que c'est une méthode.
It is a method of. Uncovering the mystery.
C'est une méthode pour dévoiler les mystères.
Science deals with mystery.
Je pense que la science a trait au mystère.
It begins with the mystery.
Ça commence par les mystères.
And religion ends with the mystery.
Alors que la religion se termine par le mystère. En d'autres
religion
termes,
comes along to say that whatever seems
la religion est là pour dire que
here is the
tout ce qui peut sembler
it.
Mystérieux, voilà
and
la
you
réponse.
Need not think about it
et pas besoin d'y penser.
Because this is, this
pas
is
besoin d'y réfléchir
is.
Davantage it's, parce que les choses sont telles qu'elles sont.
There is a creator, there is God,
il y a un créateur, il y a Dieu, il y a tout un système cosmologique.
But science says no,
alors
much
que la science
that we don't
dit non, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on voudrait découvrir. Donc la science comme méthode a développé des outils, des techniques pour dévoiler ces mystères,
to go as far as it can.
Pour aller aussi loin que possible.
Science is open to
les scientifiques,
the idea that its
la science est ouverte au fait que les découvertes peuvent être fausses.
Never gives you an absolute answer.
La science ne donne jamais de réponse absolue. La science ne dit jamais les choses doivent être comme ça. La science dit, pour autant qu'on le sache, voilà ce que ça semble être.
And to me, that was a powerful idea.
Et pour moi, c'était une idée extrêmement puissante et il y avait une forme d'honnêteté là-dedans.
In religion, and I don't mean this to
dans la religion,
religion,
et je ne dis pas ça pour critiquer la religion,
religion asks us to believe,
mais la religion nous demande
to believe
de croire
that we may not have proof for.
Quelque chose pour lequel on n'a pas forcément de preuve.
To have faith.
La religion
but science does not ask
nous
us to
demande
have faith.
La foi. La science n'exige pas la foi.
To be skeptical.
La science exige
science
le scepticisme.
To be honest about
la science exige qu'on soit honnête sur les lacunes de notre
and
raisonnement.
Encourages us to think critically, to
la science nous encourage à penser de façon critique, à toujours réanalyser, à toujours réévaluer.
And that seemed to me a more robust way of getting to.
Et ça me semble une façon plus solide.
What I thought would be the truth.
D'accéder à ce que je pensais être la vérité. Il fut une époque, je peux le dire de façon très naïve, j'ai pensé qu'il y avait de la vérité quelque part dans le monde et qu'on pouvait la découvrir. Et j'ai pensé que cette vérité, au départ j'ai cru que cette vérité était dans la religion, ensuite j'ai compris que la vérité n'était pas dans la religion, alors je me suis dit qu'elle devait être ailleurs. Je pense que ce que la science m'a appris, c'est
don't make so much of truth.
Ne donnez pas tant d'importance que ça à la vérité. Elle existe peut-être, peut-être pas, mais ne vous accrochez pas trop à cette idée.
Because everything can and should be questioned.
Parce que tout peut et doit être remis en question et tout peut être découvert. Toutes les vérités peuvent être finalement trouvées fausses à un moment. Et c'est probablement une meilleure façon de vivre.
De
penser que la Terre est plate et puis découvrir qu'elle est ronde
is enlightening.
C'est éclairant.
It is not enlightening to insist ce that even though the evidence shows otherwise, the Earth is still flat.
Éclairant d'insister pour dire que de toute façon elle reste quand même plate.
So being able to overturn truths,
être capable de renverser les vérités ou en tout cas ce qui semble être une vérité. Il y a une forme d'honnêteté là-dedans.
And there's an honesty in that that was very, very, very powerful to
quelque
me.
Chose qui me semblait très très puissant.
Donc j'ai quitté la maison et j'ai commencé de regarder autour de moi les choses actuelles et les possibilités actuelles pour moi, Jimmy. Je me suis rendu compte que je n'avais pas grand-chose. Il fallait essayer de devenir écrivain. D'abord, quelque chose que je faisais comme gosse, comme tous les gosses doués, prodiges, pour l'église et pour Pâques et pour Noël, etc. Tu vois? Et c'est le même titre que je chantais quand j'étais très jeune dans l'église. Tu vois? Plus tard, c'est devenu grave. Plus tard, comme je me suis rendu compte que puisque je n'avais pas tellement de choses que j'étais capable de faire, et puisque quand même je voulais essayer de sauver ma famille, j'avais une seule arme. J'étais forcé, très contre gré d'ailleurs, d'aller avec cela parce que je n'avais pas quelque chose d'autre. Et c'était tellement cette époque-là, c'était l'idée de devenir un écrivain, surtout en venant d'où. D'où moi je viens, était si outré que finalement les gens au début étaient engueulés, ils ont essayé de te corriger et finalement ils te traitaient comme fou parce qu'évidemment ton garçon est un peu malade, il y a quelque chose qui ne marche pas chez lui, tu vois. Et c'était comme ça. Pour moi c'était très important, je n'ai jamais pensé de gagner beaucoup d'argent comme écrivain non plus, mais j'ai pensé de prouver tout à ma petite sœur que j'étais sérieux au moins. Et mon idée, c'était de devenir écrivain. Et en étant écrivain, je pouvais être professeur. Et voilà.
Je n'avais pas beaucoup d'options autres que celle de devenir écrivain, dit James Baldwin dans cette archive, Shulem Din. On voulait terminer avec vous sur ce geste qui presque succède à votre geste le plus fort, à savoir quitter la communauté. Le deuxième geste, c'est celui d'écrire. Vous, d'ailleurs, dans ce texte, vous racontez comment vous en venez à l'écriture. À quoi ça correspond pour vous, ce geste d'écrire?
It's not all that deep.
C'est pas si profond.
Writing
tout ça.
En fait,
écrire.
Aside from the fact that it is the only thing I want to do.
À part le fait que c'est la seule chose que j'ai envie de faire, c'est la seule chose que je suis capable de faire, ça ne va pas chercher plus loin. La seule chose sur laquelle, en tout cas, j'ai assez confiance en mes capacités. Je fais d'autres choses, je parle en public, j'enseigne. Mais au final, je reviens toujours à l'écriture.
I don't quite know what the satisfaction in writing is.
Je ne sais pas trop où se situe la satisfaction dans l'écriture. En tout cas, ce n'est pas dans le fait d'écrire en lui-même, parce que ça, c'est plein de tourments. Alors que le plus grand plaisir, par contre, c'est le fait d'avoir écrit, d'avoir construit quelque chose. Mais pendant le processus de création, c'est ce qui est le plus difficile. C'est le travail le plus difficile que je peux imaginer. Le travail le plus difficile, en tout cas, auquel j'ai été confronté. Je suis sûr qu'il y a évidemment des jobs plus difficiles, mais en tout cas pour moi, c'est un processus extrêmement douloureux. Et parfois, en plein milieu de l'écriture d'un essai, j'ai envie de tout effacer, sortir et devenir consultant ou comptable. Mais je résiste toujours à cette impulsion qui me donne envie d'effacer et je continue jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui prenne forme. Et la gratification après, par contre,
vraiment,
elle est de l'ordre de l'extase spirituelle.
Est-ce qu'elle peut, Shulem Din, peser dans la balance des malheurs qui sont venus avec la prise des décisions de quitter cette communauté, par exemple de la rupture avec une certaine partie de votre famille, une certaine partie de vos amis. Est-ce que la gratification que vous avez à écrire, à raconter cette histoire, à la partager, d'une certaine manière, réchauffe un peu votre cœur?
Well, sharing the story was not
partager cette histoire, ce n'était pas ma motivation. J'avais plutôt beaucoup d'appréhension à ce sujet-là. Je n'avais pas du tout hâte d'en dire autant sur moi-même. Je n'avais pas envie de m'exposer au point où je l'ai fait. Quand j'ai fini par être convaincu par mon agent qu'il fallait que j'écrive des mémoires, une autobiographie, c'est un genre aux États-Unis. En France, on parle peut-être d'autofiction plutôt.
Once my agent convinced me
mon agent m'a convaincu qu'écrire ses mémoires était une bonne idée en ce qui me concerne, je me suis dit, bon, je vais l'écrire d'une certaine façon, mais je vais me protéger.
Il y a
certains aspects de moi dont j'avais le sentiment qu'il fallait que je les cache, de la même façon qu'on n'a pas envie d'exposer, de révéler au grand jour les parties les plus secrètes de nous. On n'a pas envie de montrer nos défauts, on les connaît, on n'a pas envie que les autres les connaissent. Et c'était très clair pour moi quand j'ai commencé à écrire que j'allais devoir en révéler davantage, et encore davantage, et que j'allais devoir creuser très profond.
And that was an uncomfortable process,
but un processus très inconfortable, mais j'ai réalisé qu'il était absolument nécessaire et que cette forme, cette forme artistique l'exige, selon moi. Et je pense que le lecteur sait quand l'auteur est assez honnête. Le lecteur sait quand l'auteur lui cache quelque chose. Je pense que dans mon cas, j'ai réalisé que je devrais m'exposer de cette manière-là. Ce n'était pas confortable. Est-ce que ça a contrebalancé? Au final, le fait en tout cas de l'avoir écrit, je n'ai pas écrit ce livre pour des raisons de thérapie, mais il y avait quelque chose de thérapeutique quand même. De la même façon qu'il y a quelque chose de l'ordre de la thérapie dans toutes les confessions, toujours. Arriver au point où on réalise que, justement, s'exposer, se révéler, ça a de la valeur, en particulier quand on essaie de créer quelque chose d'un ordre artistique, quelque chose qui ait un impact sur les autres.
Et donc,
qu'il s'agisse de l'acte d'écrire ou du fait d'avoir écrit, de ce succès-là, je ne sais pas si c'est ça qui contrebalance la douleur, la souffrance et le prix très élevé que j'ai payé pour être parti. Je pense que c'est ça, et simplement aussi le fait de vivre dans un monde libre. Et je n'utilise pas ce mot de liberté de façon triviale. Je ne parle pas d'agiter le drapeau américain en disant « nous sommes un peuple libre ». Je parle de liberté de façon beaucoup plus profonde. Vivre au monde avec la complexité de la liberté, les difficultés de la liberté.
Jean-Paul Sartre's
Sartre
a dit,
très célèbre, a écrit
we're condemned to be free.
Que nous sommes condamnés à être libres.
Is a burden.
La liberté est aussi un fardeau
we have to figure out how to deal with.
Et quelque chose qu'on doit apprendre à gérer.
That freedom, that struggle with freedom,
je pense que c'est cette liberté, cette lutte avec la liberté qui, pour moi,
incredible meaning.
Qui donne énormément de sens à ma vie.
And I think it's the gratification
et
of
je pense que c'est ça qui est extrêmement gratifiant, satisfaisant. De faire face à ce genre de complexité de la vie. C'est ça qui fait que ça valait la peine.
Shulem Din, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et merci à Marguerite Capel qui vous a traduit. Je rappelle le titre de votre livre, Celui qui va vers elle ne revient pas. C'est son titre français, publié aux éditions du Globe et traduit, si bien traduit, par Karine Reiniger.
And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait rire,
Julia?
Larry David.
Larry David.
Do you need more things?
Est-ce qu'il vous en faut plus?
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous donne vraiment de l'espoir?
What gives me hope? There isn't that much hope in the world now.
Il n'y a pas tant que ça d'espoir dans le monde aujourd'hui. Je ne vois pas tant que ça. Je suis en fait très pessimiste.
One thing I have learned is the value of patience.
Mais une chose que j'ai appris, c'est la valeur que la patience et laisser les choses se passer, se dévoiler, même quand les choses ont l'air sombres.
Et enfin, par les temps qui courent, on allume ou on éteint la radio?
Do we turn the radio on or off?
The radio?
Mm-hmm.
What's radio? It's podcasts.
La radio? Qu'est-ce que la radio? C'est des podcasts maintenant.
They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes.
Je vous à peine dire qu'on se retrouve quand même demain à 21h à la radio sur France Culture pour l'émission Par les temps qui courent et quand vous voulez évidemment en podcast ou sur le site franceculture.fr. Cette émission est réalisée par Lise-Marie Barré, au son ce soir Laure Jung, l'ancré à la préparation Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain Debec de Lièvre. On se retrouve demain à 21h avec le réalisateur Leonardo Di Constanzo et quand vous voulez Twitter @MarieRichaud.
That time may change me, but I